Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, donc, aujourd'hui, on va donc continuer le cours sur les dipôles en régime permanent sinusoïdal. Donc, vous allez vous mettre sur la première diapositive du fichier PDF partie 2. Alors, donc, ce que nous allons faire, c'est examiner, donc d'abord introduire un certain nombre de grandeurs électriques et ensuite les appliquer aux trois dipôles essentiels, les trois récepteurs essentiels qu'on va voir au cours de ce semestre, pardon, à savoir donc la résistance, la bobine et le condensateur. Bien, alors d'abord, quelques généralités. Donc, sur cette première diapositive, vous avez donc on a un dipôle qui est alimenté par un courant de type alternatif et fait apparaître donc une différence de potentiel ou une tension VA moins VB qui est égale à U ou UAB. Alors donc on va supposer que la tension qui apparaît au bord de ce dipôle s'écrit sous la forme donc sinusoïdale avec la valeur efficace racine de 2 cosinus de oméga t. Alors pour simplifier, ici j'ai considéré que il n'y a pas de phase, ou bien que la tension U de t, c'est la tension de référence. Donc en général, la sinusoïde choisie comme référence, elle a un déphasage qui est égal à 0. Et donc du coup, on voit ici, en représentation AEC, donc amplitude efficace complexe. Rappelez-vous le cours précédent. Donc on met là-dedans l'efficacité que multiplie l'exponentielle de J fois le déphasage. Et donc dans le cas où vous avez une fonction sinusoïdale avec un déphasage nul, alors votre amplitude efficace complexe est réelle. Hein, puisque vous voyez qu'exponentielle J0, ça vaut 1. Et donc l'amplitude efficace complexe U bar, elle est égale simplement à la valeur efficace. Alors donc, le courant qui traverse ce dipôle AB, on va dire qu'il s'écrit, allez, sous la forme I racine de 2 cosinus d'oméga t moins phi. Alors j'aurais pu prendre plus phi, mais bon, juste pour vous montrer un petit peu les différentes variantes que vous pouvez rencontrer dans les exercices que vous allez traiter. Donc alors à partir de l'expression réelle de ce courant, on extrait, donc donc il faut se reporter au cours précédent pour se rappeler si vous avez oublié comment on obtient l'amplitude efficace complexe. Donc en fait, à partir de cette écriture réelle, vous allez extraire la valeur efficace et le déphasage. Donc ce qui nous donne I bar égale à I efficace exponentielle de moins J phi, puisqu'ici la phase est égale à moins phi. Alors donc, on va agir ici par analogie avec ce qu'on a vu au cours du premier semestre, à savoir que la loi d'Ohm, c'était essentiellement U égale RI, mais historiquement, c'est parce que justement Monsieur Ohm, il avait remarqué qu'en faisant le rapport de la tension sur le courant, il obtenait une constante. Donc en travaillant sur U sur I, il trouvait une constante. Et cette constante, finalement, il l'a baptisée la résistance. Donc on va, disons, partir sur le même schéma. Et au lieu de parler cette fois-ci de résistance, on va parler d'impédance. Donc on va dire que dans les circuits en régime sinusoïdal, eh bien, le rapport de la tension ou le quotient de la tension par le courant, eh bien, est égal à l'impédance et la lettre qui est le plus souvent utilisée dans les ouvrages, c'est la lettre Z. Et donc, on va écrire, comme vous voyez dans le premier encadré, Z bar. Donc, c'est une quantité qui est complexe, hein, l'impédance. Elle est égale au rapport de l'amplitude efficace complexe en tension divisé par l'amplitude efficace du courant. Donc en reprenant les expressions pour U bar et I bar, on arrive au rapport des valeurs efficaces, donc U sur I, et le rapport de l'exponentielle que vous voyez en bas, eh bien, vous pouvez la faire remonter en haut, évidemment, en changeant le signe de l'exposant de l'exponentielle. Et donc, ça vous redonne exponentielle J phi. Donc, cette impédance complexe Z bar, elle peut s'écrire sous la forme d'une valeur réelle, Z, vous voyez, il n'y a pas de trait en dessous, et que multiplie exponentielle J phi. Donc, elle a le même type de représentation, c'est-à-dire un module. Donc, en réalité, Z, c'est le module de Z bar. Et phi représente donc un certain déphasage. Donc, dans l'encadré juste en dessous, justement, on définit le module de Z bar avec deux traits verticaux. Ça, normalement, vous avez dû le voir en terminale. Donc, si je reprends la définition, ben, ça va être le module de U bar sur I bar. Or, parmi les propriétés des nombres complexes, le rapport, ou le module, pardon, d'un rapport de deux nombres complexes est égal au rapport des modules de chacun des deux nombres complexes. Donc, ça va nous donner le module de U bar sur le module de I bar. Et le module de I bar, c'est U, c'est la valeur efficace, et le module de I bar, c'est directement la valeur efficace du courant. Et donc là, on va obtenir la grandeur Z, et son unité, ça va être donc le ohm. D'accord? Donc, on peut parler de déphasage, mais on peut aussi parler d'argument. Et donc, l'argument de l'impédance Z bar, eh bien, comme vous avez ici Z bar qui est défini par un rapport de deux nombres complexes, et donc ça va être, donc en fait, ça va être l'équivalent d'un rapport. Donc, vous voyez bien que dans U bar, d'une manière générale, vous allez avoir une exponentielle avec un déphasage. Le I bar, vous allez avoir aussi une exponentielle avec un autre déphasage. Et donc, vous avez en fait un rapport de deux exponentielles. Et c'est l'exponentielle qui est au dénominateur. Si vous la montez en haut, ben, donc ça va vous donner une exponentielle avec une phase inversée. Et donc, si on parle d'argument, ici, eh bien, donc ça va être l'argument de U qui est au numérateur moins l'argument de I qui est au dénominateur. Et donc la différence des deux phases de U et de I va nous donner la valeur de phi. Alors comme ici l'argument de I était égal à moins phi, donc en passant au numérateur, il devient plus phi. Et donc et comme l'argument de U bar est égal à 0, hein, puisque c'est la tension de référence, donc il vous reste simplement le déphasage phi. Alors, donc, comme on a parlé, ou on vous a parlé au cours du premier semestre de la conductance, qui était définie comme l'inverse de la résistance, eh bien ici, on va agir de la même façon et définir l'inverse de l'impédance, et on va l'appeler l'admittance complexe, et la lettre consacrée, c'est en général, la lettre Y. Donc, Y bar est défini comme étant l'inverse de l'impédance, c'est-à-dire égal à 1 sur Z bar. Et donc, si on remplace ici les expressions, donc on va avoir à l'inverse, donc c'est I bar sur U bar, et si vous remplacez les différentes expressions, vous allez obtenir, donc au final, I sur U, en valeur efficace, exponentielle de moins J phi. Et le rapport I sur U, c'est le module de l'admittance. Donc c'est Y sans le trait en dessous. Ça, donc c'est le module de Y, exponentielle de moins J phi. Donc dans le dernier encadré de la première diapositive, vous avez le module de Y, qui est égal donc à I sur U, en valeur efficace, et l'unité utilisée, c'est le Siemens. Donc c'est la lettre S, simplement. Et Siemens, c'est comme l'entreprise allemande, Siemens. Et l'argument de phi, cette fois-ci, ben c'est quand vous avez une exponentielle de i en haut et une exponentielle de u en bas, donc ça va être argument de i, pardon, moins argument de u. L'argument de u est égal à 0, l'argument de i c'était moins phi, donc l'argument de votre admittance, elle est égale à moins phi. Alors, donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc ici, je vous mets directement un schéma d'un circuit électrique tel que vous allez les retrouver dans votre fascicule de TD, oui, d'exercice. Et je vais vous donner quelques indications pour justement démystifier un petit peu toutes les écritures qu'on peut rencontrer dans ce genre d'exercice. Alors, donc, le schéma lui-même, il est composé donc d'un générateur de tension sinusoïdale. Donc, vous voyez que c'est un rond avec un tilde à l'intérieur. Donc, dès que vous rencontrez ça, vous savez que c'est un générateur de tension et il est alternatif. Donc, vous avez la flèche de tension. Alors, cette flèche de tension, elle indique simplement quelle est l'orientation de la tension E1 au moment où vous mettez sous tension. D'accord? Donc on va dire que la tension est orientée dans ce sens-là. Alors, donc ça c'est un point important à comprendre, c'est que contrairement au circuit qui était alimenté par des générateurs de tension continue, où la tension était toujours dirigée dans une direction et elle le garde tout le temps, ici on a affaire à une tension qui change de sens, puisque le signal sinusoïdal, c'est un signal bidirectionnel, donc il est sur une demi-période, il est positif. Donc par exemple, la flèche de tension, elle va être orientée vers le haut. Et ensuite arrive l'autre demi-période où la tension est négative. Et donc là, normalement, la flèche de tension, elle doit changer de sens. Donc dans un circuit qui est alimenté par des générateurs de tension de courant de type alternatif, il n'y a pas de sens de parcours du courant. En fait, le courant dans le circuit, alternativement, chaque demi-période, il change de sens. Donc il va de gauche à droite, puis de droite à gauche, et ensuite de gauche à droite, et ainsi de suite. D'accord? Alternativement. Donc, dans l'étude de ces circuits, on ne va pas parler de quel est le sens du courant, si ce n'est simplement à t égale 0, quel va être le premier sens que va avoir le courant. Mais après, on sait qu'au cours du temps, eh bien, ce courant va alternativement changer de sens. D'accord? Voilà. Donc à t égale 0, on vous donne l'orientation supposée des générateurs de tension. Donc ici, dans ce schéma, vous en avez deux, E1 et E2. Alors, ils ont nécessairement la même fréquence, hein. On avait dit les diagrammes de Fresnel et compagnie, on ne peut les utiliser que si vous avez la même fréquence. Donc les générateurs seront réglés sur la même fréquence. D'accord? Voilà. Et donc vous avez les amplitudes efficaces complexes associées. Donc pour E1, vous avez 10 volts et comme phase égale 0. Donc ça veut dire que c'est ce générateur-là qui est pris comme origine des phases. Et puis le deuxième générateur, lui, il fait 6 volts en valeur efficace. Et puis, il présente un déphasage de plus 90 degrés par rapport au générateur E1, par exemple. Alors ensuite, vous avez des résistances. Vous avez donc trois résistances et un condensateur et puis une bobine. D'accord? Alors, donc, maintenant, si on regarde sur la gauche de votre diapositive, donc il est possible d'écrire à partir donc de l'expression de l'amplitude efficace complexe de la tension E1, on peut retranscrire ça sous forme d'une tension réelle. Et donc, vous voyez, j'écris E1 de t égale, donc j'extrais la valeur efficace. Et je l'ajoute dans l'expression de la tension sinusoïdale. Donc ça me fait 10 racine de 2 sinus. Alors donc je suppose ici que oméga est égal à 5. Donc ça me fait 5t. Et plus pi sur 2. Donc là, normalement, c'est plus 0. Donc là, il y a une erreur sur E1. Ah, pardon, pardon. Non, non, non. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. J'ai écrit ça sous la forme sinus de 5t plus pi sur 2. D'accord. Donc, oui, ok. Ça me revient. Alors, donc, si on regarde quelle est la valeur efficace, donc la réponse, c'est 10 volts. La phase, elle est égale à 0 volts. Pourquoi? Eh bien, ici, justement, j'ai fait exprès d'écrire E1 avec un sinus. Vous voyez que je l'ai écrit avec un sinus et non pas avec un cosinus. Et donc, rappelez-vous, on avait toujours dit que en représentation complexe, il faut réécrire votre signal sinusoïdal avec un cosinus. Pourquoi? Parce que E1 de t, c'est la partie réelle de E1 bar de t. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord faire une transformation de votre sinus en cosinus. Et donc là, en fait, il suffit simplement d'utiliser la relation trigonométrique sinus de A plus B. C'est sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A. Et donc, quand on fait ça, eh bien, le sinus de 5t plus pi sur 2, ça se transforme simplement en cosinus de 5t. Et cosinus de 5t, ça veut dire que la phase, dans ce cas-là, vaut 0. Hein, puisque l'expression en cosinus de E1 de t, c'est 10 racine de 2 cosinus 5t. D'accord? Et donc ça, ça confirme bien le fait que la phase soit égale à 0 degré. Alors, donc, toujours tout en bas à gauche, vous voyez comment on peut définir l'impédance ZL. Donc, en faisant le rapport de la tension borne de la bobine UL de T bar sur IL de T bar. Donc là, avec les expressions temporelles. Mais on peut tout aussi bien écrire cette impédance avec les amplitudes efficaces complexes. Donc c'est UL bar divisé par IL bar. Alors donc si on revient au schéma, sur le schéma, vous voyez en bleu est indiquée la valeur de l'amplitude efficace complexe de la tension en borne de l'inductance. Donc elle a pour valeur 8 et présente un déphasage de 3 pi sur 4. D'accord? Et pour le courant en rose qui traverse cette inductance, on vous donne son expression. C'est égal à 2, donc ça veut dire que c'est la valeur efficace, hein, c'est 2 ampères, et présente une phase de pi sur 4. Donc quand je viens déterminer l'impédance ZL, eh bien, en explicitant le rapport UL bar divisé par IL bar, c'est-à-dire en remplaçant 8 exponentielle de J 3 pi sur 4 divisé par 2 exponentielle de J pi sur 4. Donc 8 sur 4, ça me fait 4. Et l'exponentielle de J 3 pi sur 4, en faisant remonter l'exponentielle de J pi sur 4, donc en numérateur, ça vous donne l'exponentielle de J moins pi sur 4, eh bien, vous vous retrouvez avec, finalement, exponentielle de J pi sur 2. Or, exponentielle de J pi sur 2, cosinus pi sur 2, c'est 0, plus J sinus pi sur 2, c'est 1, donc c'est 1 fois J, donc il vous reste J. Donc c'est 4J, et c'est bien ce qui est indiqué sur le schéma, hein, si vous voyez, ZL égale à 4J. D'accord? Alors maintenant, un peu plus à droite, on a l'expression donc de l'amplitude efficace complexe du deuxième générateur. Donc c'est 6 volts avec une phase de pi sur 2. Donc j'écris ici l'amplitude efficace complexe associée. Et si je devais écrire l'expression temporelle de la deuxième source, E2 de t, eh bien, je réinjecte là-dedans le racine de 2, le cosinus de oméga t, donc ici c'est 5t, Et ensuite, je n'oublie pas de préciser la valeur efficace et la phase qui est ici de pi sur 2. Voilà. Donc, vous voyez, sur le schéma, on n'est pas obligé de reporter l'expression réelle de la tension. On n'est pas obligé d'écrire l'expression temporelle complexe. On met simplement les amplitudes efficaces complexes. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez rencontrer dans le traitement des exercices en TD. Alors, donc, on va passer à la diapositive suivante, donc la numéro 3. Alors donc cette impédance finalement qui s'écrit en format exponentiel ou en polaire sous forme de module de Z fois la phase, eh bien l'exponentielle de J phi évidemment on peut la décomposer en cos phi plus J sinus phi, et donc ça c'est en écriture dite cartésienne que l'on peut mettre sous la forme R plus Jx. Et donc, cette impédance, elle renferme donc deux quantités. La partie réelle qu'on va continuer à appeler résistance. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que les résistances qu'on a vues au cours du premier semestre, alimentées par des tensions ou des alimentées par des générateurs de tension ou des générateurs de courant de tension de valeur continue, sans un cas particulier, parmi les impédances. C'est-à-dire, c'est des impédances pour lesquelles la partie imaginaire est nulle. D'accord ? Donc, l'impédance est beaucoup plus générale qu'une résistance. Une résistance, on peut dire, c'est une impédance dont la partie imaginaire est égale à zéro. Cette partie imaginaire, d'ailleurs, porte un nom, on appelle ça la réactance. Donc, lorsque la réactance est nulle, votre impédance n'est rien d'autre qu'une résistance. D'accord ? Alors donc pour déterminer le module de Z, donc à partir d'une écriture cartésienne sous la forme R plus Jx, eh bien, c'est simplement la racine carrée du carré de R2 plus X2. Et pour le déphasage, ou l'argument de Z, eh bien c'est le rapport de la quantité imaginaire sur la quantité réelle, ou bien la réactance divisée par la résistance. D'accord ? Arc tangent. Alors, on peut faire le même raisonnement avec l'admittance, donc qui peut s'écrire exponentiellement en polaire sous la forme module exponentielle de J fois phi ou moins phi, dans le cas particulier de cet exercice, de l'exemple qu'on a pris, que l'on peut aussi écrire en représentation cartésienne, que l'on peut mettre sous la forme G plus JB. Donc, la partie réelle, c'est un petit peu, comme on l'a vu, c'est l'inverse de la résistance. Donc on va continuer à appeler ça la conductance. Et on rajoute, donc pour la partie imaginaire, on va appeler ça la susceptance. D'accord ? Donc une admittance complexe renferme une partie réelle qui est la conductance et une partie imaginaire qui est la susceptance. Et donc on peut dire de la même façon, une conductance, c'est quelque part un cas particulier parmi les admittances ayant une susceptance nulle. D'accord ? Alors donc pareil, hein, on définit le module de l'admittance et l'argument ou la phase de l'admittance. Donc voilà un peu pour les généralités. Donc on va passer à la diapositive numéro 4. Dans laquelle donc on va faire passer maintenant en revue les différents dipôles que vous avez vus au cours du premier semestre et qu'on a vu également dans la première partie de ce semestre sur les régimes transitoires. Donc c'est les bobines et les condensateurs. Alors, donc prenons une résistance de valeur R parcourue par un courant I. Admettons que le courant est pour expression I de t égale à I efficace racine de 2 cosinus d'oméga t. Donc on laisse tomber la phase ici. Hein, on va supposer que le courant est à une phase nulle. Donc on a dit que la loi d'Ohm reste applicable instantanément. Donc la tension au bord de la résistance, c'est simplement grand R que multiplie I de t. Donc en explicitant le courant I de t, Ça me donne donc RI racine de 2 cosinus de oméga t, et le produit R fois I, eh bien, c'est la tension aux bornes de la résistance. Et compte tenu de l'écriture, puisque vous voyez, il y a juste à côté un racine de 2, donc UR représente la valeur efficace de la tension aux bornes de la résistance. Donc UR est égal à RI, et UR, c'est la valeur efficace de la tension aux bornes de la résistance. Alors donc maintenant, si on regarde le diagramme de Fresnel associé à la tension U de T et au courant I de T, eh bien vous voyez que si l'expression de U de T, donc la tension aux bornes de la résistance, c'est aussi en cosinus de oméga t. Et vous n'avez pas de déphasage supplémentaire. Donc, il n'y a pas de déphasage entre l'expression de I de t et de U de t, puisqu'ils sont tous les deux en cosinus de oméga t. Donc, en représentation de Fresnel, donc si on prend à l'axe horizontal φ égale 0, eh bien, si je prends deux échelles différentes, l'une pour les courants et l'autre pour les tensions, eh bien, ces deux vecteurs sont collinaires. D'accord ? Puisque tous les deux, ils ont une phase nulle, donc ils sont collinaires. Alors, donc, en représentation complexe, on va dire que ZR, donc qui est le rapport de UR sur I, donc si vous faites le rapport de grand UR sur I, il vous reste simplement R. Et vous n'avez pas de phase. Et donc, vous allez écrire que, en notation phaseur, que l'impédance d'une résistance, c'est simplement égal à R, ou bien, en notation phaseur, R avec l'angle 0 degré. Le module de l'impédance associé à une résistance R, c'est simplement R, et l'argument φ est égal à 0. D'accord ? Donc, on retiendra très simplement que l'impédance d'une résistance, c'est simplement R. D'accord ? Et qu'il n'y a pas de déphasage entre le courant et la tension. Alors, donc ça, d'un point de vue pratique, en TP, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, sur un oscilloscope, ça voudrait dire que la sinusoïde représentative du courant et la sinusoïde représentative de la tension, eh bien, ces deux sinusoïdes sont superposables. Elles atteignent leur maximum en même temps, elles passent à zéro en même temps, elles passent au minimum en même temps, et ainsi de suite. D'accord ? Donc c'est ça que ça signifie, qu'elles sont en phase, les deux sinusoïdes coïncident l'une avec l'autre. Alors donc on va passer à la diapositive suivante, la 5. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la bobine. Donc, supposons que l'on ait une bobine d'inductance L, et qui est traversé par un courant I de t sinusoïdal de type I efficace racine de 2 cosinus de oméga t. Donc on reprend un peu la même expression que précédemment. Et apparaît aux bornes de cette bobine, comme on l'a vu avec les régimes transitoires, une tension dont l'expression est égale à L di sur dt. Alors, donc, ce que l'on va faire ici, c'est on va dériver l'expression de I de t. Donc, en dérivant, on obtient moins L oméga I racine de 2 sinus de oméga t. Alors, donc, rappelez-vous que l'expression d'une tension, pour les besoins effectifs de pouvoir utiliser la notion de déphasage et pouvoir utiliser la représentation complexe, vous devez impérativement réécrire l'expression de votre tension, ça peut être aussi le courant, en cosinus et ne pas les laisser en sinus. D'accord ? Donc ici, suite à la dérivation, c'est un sinus qui apparaît, mais les transformations trigonométriques nous permettent d'écrire que moins sinus x est égal à cosinus de x plus pi sur 2. D'accord ? Donc cosinus de x plus pi sur 2 est égal à moins sinus x. Donc c'est peut-être des formules trigonométriques, de transformations trigonométriques qu'il faut absolument apprendre par cœur, parce que il n'est pas dit que vous ne soyez pas dans cette situation à un moment ou à un autre en traitant les exercices. D'accord? Voilà, alors donc, suite à ce changement, donc moins sinus de oméga t, c'est pareil que cosinus de oméga t plus pi sur 2. Donc j'obtiens maintenant l'expression de la tension en bande de l'inductance écrite sous la forme, donc valeur efficace UL, racine de 2, 1 cosinus et plus une face. Donc si j'identifie la tension UL, qu'est-ce qu'elle renferme? Eh bien la tension UL, la valeur efficace de la tension en bande de la bobine, eh bien c'est égal à L que multiplie le oméga qui vient de la dérivation et que multiplie la valeur du courant efficace I. D'accord? Alors donc maintenant, si je compare l'expression toujours dans une représentation dite de Fresnel, donc si je prends un vecteur représentatif du courant I ici en rouge, donc comme vous avez un cosinus simplement de oméga t, donc le vecteur s'aligne avec l'axe horizontal phi égale 0. Si vous regardez maintenant l'expression de la tension U de t, vous voyez que votre cosinus de oméga t apparaît avec un plus pi sur 2. Et donc l'angle ou la phase ici étant un angle orienté, donc il est positif si vous êtes dans le sens trigonométrique et négatif si vous êtes en sens inverse. Donc ici on est à plus pi sur 2, donc je tourne d'un angle de 90 degrés par rapport donc à l'axe des phases. Et donc sur le diagramme de Fresnel, quand je vais représenter la tension efficace ou le vecteur associé à la tension efficace UL qui est égal à N oméga I, eh bien je suis obligé de le tourner de 90 degrés et donc il se retrouve perpendiculaire à I. Alors, donc on va dire que si le déphasage est positif, alors on est en quadrature avance. Donc la tension aux bornes de l'inductance est en avance de plus pi sur 2 par rapport au courant électrique qui traverse la bobine. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est l'image donnée par la construction de Fresnel. Alors donc, si on revient cette fois-ci à l'écriture ou la représentation complexe, donc ZL, c'est égal au rapport de UL sur I, donc UL en complexe, en amplitude efficace complexe, divisé par I, amplitude efficace complexe. Donc si on écrit l'amplitude efficace complexe UL, d'accord, UL bar, donc on va prendre la valeur efficace, c'est UL. Et le déphasage, c'est exponentielle de jpi sur 2. Donc, comme UL, c'est L oméga I, donc mon amplitude efficace complexe associée à la bobine, c'est L oméga I efficace exponentielle de jpi sur 2. Et le tout est divisé par I exponentielle j0, puisque le courant n'a pas de déphasage. D'accord? Donc les i se simplifient et il me reste simplement L oméga exponentielle de jpi sur 2. Alors, exponentielle de jpi sur 2, si je l'écris en cartésien, eh bien il me reste simplement j, hein, puisque c'est cosinus pi sur 2 vaut 0 et j sinus pi sur 2, sinus pi sur 2 c'est 1. Donc il me reste simplement j. Donc exponentielle de jpi sur 2, retenez-le, c'est en écriture cartésienne, c'est simplement J. Donc c'est égal à JL oméga, c'est une autre façon d'écrire l'impédance associée à une bobine, ou bien en notation phaseur, donc on mettra le module, c'est L oméga, et la phase, c'est plus pi sur 2. D'accord? Alors, donc, vous n'avez plus besoin de redémontrer tout ça, donc ça c'est simplement pour voir d'où ça vient. Mais ce que vous devez retenir, c'est directement, dès que vous voyez dans un circuit apparaître une impédance, si la tension d'alimentation est sinusoïdale, Si on vous demande de traiter l'exercice en représentation complexe, donc vous devez automatiquement savoir que l'impédance associée à la bobine, c'est soit L oméga exponentielle J pi sur 2, ou bien J L oméga, ou bien L oméga plus pi sur 2 en notation en phaseur. D'accord ? Donc ça, il faut absolument l'apprendre par cœur. Alors, donc on passe à la diapositive suivante, la 6. Donc là, il s'agit de traiter le cas du condensateur qui est donc traversé par un courant sinusoïdal et qui fait apparaître une tension UC. Donc, le courant, on va le prendre de même nature, sans phase. Et rappelez-vous, lorsque un courant change au cours du temps, eh bien, il vient charger un condensateur, de toute façon. Et donc, on a vu la relation qui existe entre le courant et la tension, qui est C d de UC sur dt. Alors, donc, ici, j'ai une équation, finalement, c'est la dérivée de UC sur dt, qui est égale à I sur C, et je peux calculer la primitive pour obtenir l'expression de UC, ou U de t, comme c'est noté également dans le calcul. Donc ça revient à écrire U de t égale à 1 sur C l'intégrale de I de t dt, donc en remplaçant le courant I de t par son expression. Donc là, sans difficulté, vous obtenez l'expression U de t égale à I racine de 2 sur C oméga sinus de oméga t. Donc là aussi, vous voyez, on obtient quelque chose en sinus à cause de justement de la primitive. Et pour la constante d'intégration, elle vous donne 0 parce que je ne l'ai pas marqué, mais on va supposer que le condensateur n'est pas chargé au moment où j'ai mis le condensateur sous tension. Alors donc, ici on va utiliser plutôt la relation qui lie de transformation du sinus x en un cosinus. Donc en fait, sinus x est égal à cosinus de x moins pi sur 2. Je répète, sinus x est égal à cosinus de x moins pi sur 2. Donc c'est ce qui est utilisé ici. Donc on remplace le sinus de oméga t par cosinus de oméga t moins pi sur 2. Donc, la valeur efficace, la tension efficace, c'est ce qui est à gauche de racine de 2, c'est-à-dire I sur C oméga. Donc, UC représente la tension efficace au bord du condensateur, elle est égale au rapport du courant sur C fois oméga. D'accord ? Alors, donc, dans la représentation de Fresnel, comme tout à l'heure pour le courant, donc il est aligné avec l'axe des phases phi égale 0. Et maintenant, si vous regardez la phase correspondante à la tension au bord du condensateur, vous voyez apparaître un moins pi sur 2. Donc vous avez un angle qui est négatif. Donc ça voudrait dire que par rapport au sens trigonométrique, vous devez tourner en sens inverse. Et c'est ce qui est fait ici, donc dans la représentation de Fresnel. Donc on prend un vecteur dont la longueur correspond, à, grâce à une certaine échelle, à la valeur efficace de la tension. Et on tourne de moins 90 degrés. Et dans ces conditions, vous voyez que, comme le déphasage est négatif ici, eh bien, on va dire que la tension U de T est en retard de pi sur 2 par rapport au courant I de T. Ou bien on parle aussi de quadrature retard sur I de t. D'accord ? Donc c'est pour la bobine, on est en quadrature avance, et pour le condensateur, on est en quadrature retard. Alors, donc, en revenant à la définition d'une impédance, c'est-à-dire en faisant le rapport de l'amplitude efficace complexe de la tension au bord du condensateur divisé par I bar, donc, il faut d'abord faire la transformation à partir de l'expression U de T en U bar de T, et ensuite à partir du U bar de T, obtenir U bar C, qui est donc l'amplitude efficace complexe, qui va contenir donc UC comme valeur efficace, et l'exponentielle dans laquelle vous devez rajouter le moins j pi sur 2. Donc en faisant le rapport entre la tension, l'amplitude efficace complexe et le courant en amplitude efficace complexe, vous avez les valeurs efficaces I qui s'y simplifient, et il vous reste simplement 1 sur C oméga et exponentielle de moins J pi sur 2. D'accord ? Alors, donc exponentielle de moins J pi sur 2, en cartésien, vous pouvez l'écrire sous la forme moins J sur C oméga, et vous avez la représentation phaseur 1 sur C oméga moins pi sur 2. Et il y a aussi une autre représentation. Si vous écrivez le J au dénominateur, ça vous donne 1 sur JC oméga. Donc toutes ces écritures sont équivalentes. Certaines sont écrites en cartésien, avec J au numérateur, J au dénominateur, et d'autres sont écrites en polaire ou en exponentielle. Donc le module de ZC, qui est en son unité CD ohm, un peu la même chose, peut-être je ne l'avais pas dit, mais c'était pareil pour la bobine. Le module de ZL a pour unité des ohms. Et donc il est égal simplement à 1 sur C oméga. Donc si vous connaissez la valeur de C et vous connaissez la fréquence de votre générateur, ben, vous pouvez déterminer la valeur de l'impédance associée au condensateur. Et l'argument ou la phase est égale à moins pi sur 2. D'accord ? Bien, alors donc on va passer à la diapositive suivante. Alors donc ici, maintenant qu'on a vu individuellement la résistance, la bobine et le condensateur, donc maintenant on peut les mettre tous ensemble. Et donc il y a deux manières de les associer, soit en série, soit en parallèle, ou un mix des deux, série plus parallèle. D'accord ? Alors donc on va maintenant directement travailler avec la représentation complexe. Donc sur les schémas, on va directement indiquer les impédances associées à chacun des dipôles. Donc on va supposer qu'on a donc trois dipôles d'impédance Z1, Z2 et Z3 montés en série. Entre A et B, on peut chercher l'impédance équivalente, qu'on va appeler Z indice E, qui permet d'obtenir un schéma équivalent dans notre circuit entre A et B. C'est-à-dire on aura la même tension et le même courant si on remplace Z1, Z2 et Z3 par une unique impédance Z2. Alors donc, compte tenu du fait que ici la tension totale entre A et B, c'est simplement la somme des trois tensions U1 plus U2 plus U3, eh bien il est facile de montrer que l'impédance associée, donc, ou l'impédance équivalente, c'est simplement la somme des impédances associées à chacun des dipôles. Donc ZE bar est égal à Z1 bar plus Z2 bar plus Z3 bar. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez, on retrouve la même relation que ce qu'on a déjà vu avec les résistances. Donc, ça se manipule exactement comme les résistances. Donc, un exemple concret ici, où on met en série cette fois-ci que deux dipôles, c'est-à-dire une résistance avec une inductance. D'accord ? Donc, on appelle ça un circuit RL, en sinusoïdal. Alors, donc, la tension entre A et B, elle va se répartir comme la somme de la tension aux bornes de la résistance, auquel on doit ajouter la tension aux bornes de l'inductance. Donc là, il n'y a pas de mystère, ça vous connaissez. Maintenant, l'impédance équivalente, c'est la somme des impédances associées à R et L. Et donc là, on va directement écrire que ZE est égal à ZR plus ZL. Alors, donc normalement, barbare, il faut que je le dise. Et ensuite, je remplace ZR par sa valeur, donc c'est R. Et ZL, comme on l'a vu précédemment, donc c'est directement JL oméga. Bien, alors donc, R plus JL oméga représente donc l'impédance équivalente entre A et B avec une partie réelle représentée par R et une partie réactive, donc la réactance, qui est égale à L oméga dû à la bobine. Alors, donc, je peux m'intéresser au module de l'impédance équivalente. Donc là, c'est simplement, comme vous le ferez avec un nombre complexe, Z égale à A plus IB, c'est racine carrée de A2 plus B2. Donc ici, on utilise exactement la même relation, donc c'est racine de R carré plus L oméga au carré. Et pour déterminer l'argument de ZE, donc il faut revenir à l'expression de ZE bar. Donc on avait dit que c'était arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc la partie imaginaire ici c'est L oméga et la partie réelle c'est L. Et donc là, arc tangente de cette quantité-là devrait vous donner la valeur du déphasage phi associé donc à l'impédance équivalente. Alors, donc, dans la représentation de Fresnel, donc, on va avoir... Alors, donc, il faut commencer par regarder... j'aurais dû inverser, mais c'est pas grave. On va se focaliser d'abord sur le diagramme de Fresnel qui est sur votre droite, qui fait intervenir les tensions, et ensuite, on regardera le diagramme de Fresnel associé aux impédances qui est sur votre gauche. Alors, sur votre droite, donc... On a vu que, donc on prend phi comme axe des phases, phi égale 0, l'axe horizontal. Donc on va dire que l'axe horizontal représente la direction du vecteur I, hein, puisque le courant ici est, on va s'en servir comme référence, puisque c'est le même courant qui traverse les trois dipôles. Donc lorsqu'on vous avez un montage en série, d'une manière générale, c'est le courant qui est pris comme référence. Alors, ce n'est pas une règle générale, mais assez souvent, parce que comme c'est le courant, c'est le même qui traverse l'ensemble des dipôles, donc on va le choisir comme, fonction de référence. Donc, dans ce cas-là, la tension, on sait que la tension au bord de la résistance est toujours collinéaire à I. Donc, le vecteur de Fresnel représentant la tension UR est collinéaire parallèle à l'axe phi. D'accord ? Il est horizontal. Ensuite, la tension aux bornes de l'inductance, elle, rappelez-vous, par rapport au courant qui la traverse, elle est déphasée, elle est en quadrature avance. Donc, elle est en plus pi sur 2. Donc, dans la représentation de Fresnel, c'est le vecteur UR plus le vecteur UL qui vous donne le vecteur U, qui est la tension globale. Donc, par construction géométrique, on a donc aligné le vecteur RI, et ensuite, à partir de l'extrémité du vecteur UR, ou RI, on rajoute le vecteur UL. Et donc, par construction, on a ici la tension U et la phase à l'origine, phi, associée donc à la tension totale. D'accord ? Alors, donc, en représentation, cette fois-ci, avec les impédances. Donc, l'impédance aux bornes de la résistance, vous vous rappelez, c'était R, notation phaseur R0. Donc, elle est en phase, avec l'axe des phases. ZL, vous avez, si vous vous rappelez, donc en notation phaseur, c'est L oméga plus pi sur 2. Donc L oméga c'est ZL, c'est le module, et plus pi sur 2, donc elle est déphasée de plus pi sur 2. Donc c'est un vecteur vertical dans le sens trigonométrique. Et donc vous voyez bien qu'ici, la résistance RL, qui est la somme, qui est, alors, donc c'est pas tout à fait la somme, c'est ici, comme on travaille, donc avec les tensions c'est une somme vectorielle, mais avec les impédances, il faut faire attention, là vous avez un triangle rectangle, et chaque longueur ici représente donc la longueur du vecteur. Et donc pour obtenir ZRL ici, simplement vous appliquez le théorème de Pythagore, et le théorème de Pythagore va vous donner donc ZR carré plus ZL carré égale à ZRL au carré. ZRL ici, c'est rien d'autre que ZE. C'est la même impédance. Et donc, vous voyez que la longueur du vecteur représentant ZRL, c'est la racine carrée de R carré plus L oméga carré. La chose à laquelle on était arrivé en utilisant la représentation complexe. D'accord ? Donc vous avez exactement le même type de représentation en complexe ou bien par construction vectorielle ou géométrique. Alors, donc on va passer à la diapositive suivante, la 8. Donc là, c'est un autre exemple de circuit série. Donc vous avez une résistance en série avec une capacité. Donc on cherche à déterminer l'impédance associée entre A et B, l'impédance équivalente. Donc c'est, on va écrire ça de la même façon. Donc la tension totale U, c'est égal à UR plus UC. Donc après, transformation en U bar égale à UR bar plus UC bar. Eh bien, on arrive au résultat, ou bien directement, ici vous avez des impédances qui sont en série, donc on sait que l'impédance équivalente, c'est la somme des impédances, donc c'est l'impédance de la résistance plus l'impédance du condensateur. Alors, l'impédance de la résistance, comme tout à l'heure, donc c'est R, et celui de la capacité, ou du condensateur, donc c'est moins J sur C oméga. D'accord ? Alors, donc, pareil, on peut déterminer le module de cette impédance équivalente. Donc, c'est la racine carrée de la partie réelle carrée plus la partie imaginaire carrée. Et l'argument, ou le déphasage, c'est la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc, ça nous donne arc tangente de moins 1 sur RC oméga. Alors, donc, si on essaye de représenter donc les vecteurs tension et les impédances associées du montage RC, donc, cette fois-ci, vous avez sur votre gauche la représentation vectorielle des tensions efficaces. Donc, comme tout à l'heure, alors ici, on se répète un petit peu. Donc, la tension au bord de la résistance et le courant sont en série, sont en phase, pardon. Je commence à fatiguer. Sont en phase et donc, c'est horizontal. Ensuite, rappelez-vous, on avait dit que pour la tension aux bornes du condensateur, vous avez exponentielle de moins J pi sur 2. Donc vous avez une phase négative. C'est la raison pour laquelle le vecteur ici est dirigé vers le bas, est tourné de 90 degrés. Et la somme des deux vecteurs donc, vous donne la tension globale avec un déphasage qui ici est négatif. Donc on peut faire la même chose avec les impédances en remplaçant simplement les longueurs de vecteurs ici par les valeurs des impédances. Et donc on voit bien ici en appliquant le théorème de Pythagore que ZRC ou bien ZE en module c'est égal à ZR carré plus ZC carré. Racine. D'accord ? Et donc on retrouve bien l'expression à partir de la représentation complexe. Et on voit bien qu'effectivement, en représentation complexe, la phase phi, c'est égal à moins 1 sur RC oméga, c'est-à-dire une quantité négative. Et dans la représentation de Fresnel, on voit bien que l'angle phi est dirigé en sens contraire du sens trigonométrique. Donc, il est négatif. Donc, si vous travaillez avec la représentation de Fresnel, n'oubliez pas que vous êtes avec des angles orientés. Donc, si vous devez déterminer graphiquement la valeur de phi, il faut quand même tenir compte du fait que phi est tourné à l'opposé du sens trigonométrique. Donc vous devez, pour le calculer, vous voyez que c'est la même chose, hein, donc vous faites le rapport côté opposé sur côté adjacent pour tangente phi. Par contre, n'oubliez pas tout à la fin d'ajouter un signe moins devant la valeur de phi, puisqu'il s'agit d'un angle négatif. D'un déphasage négatif. Alors, donc, la diapositive suivante. Alors ici, c'est un exercice d'application. Donc, je prends une fréquence de 150 Hz, une capacité de 530,5 microfarad, et ensuite, on vous demande, par exemple, de déterminer la valeur de l'impédance du condensateur à cette fréquence-là. Donc, vous dites simplement que le module de ZC, c'est 1 sur C oméga, et puis vous calculez ça, et le résultat, vous l'avez en ohms. Maintenant, si vous devez écrire l'expression de l'impédance en complexe, Z bar C, donc là, vous devez multiplier donc le module par moins J. D'accord ? Puisque c'est moins J que multiplie 1 sur C oméga. Donc ça fait 2 fois moins J, donc ça fait moins 2J. Donc l'impédance associée à votre condensateur, en écriture cartésienne, c'est moins 2J. D'accord ? Alors, si on fait la même chose, cette fois-ci, entre A et B, mais avec une bobine, dont la valeur est de 23,34 milli-henri, donc on vous demande de déterminer le module. Donc le module d'une impédance, c'est d'une bobine, c'est L oméga. Donc en faisant le calcul, vous devez trouver 22 ohms. Et pour donner l'expression complexe de l'impédance, donc l'impédance ZL bar, eh bien c'est simplement L oméga que multiplie J. Donc ça vous fait 22J. Alors, dans le troisième exemple, cette fois-ci, on met donc le condensateur C et la bobine en série, et on vous demande quelle est l'impédance entre A et B. Donc, vous savez que c'est la somme. Donc, en prenant les valeurs obtenues pour chacune des impédances, donc vous avez simplement moins 2J plus 22J, donc ça vous fait 20J. D'accord ? Et dans une association en dérivation en parallèle, donc, on reprend les mêmes relations qu'on a vues avec les résistances. Hein. Rappelez-vous, quand vous avez deux résistances en parallèle, donc c'est R1 et R2, ben ça va être R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Donc ici, on a la même logique. Donc c'est ZC fois ZL sur ZC plus ZL. Et donc ici, on remplace par les expressions complexes, on simplifie, et donc ça nous donne ZAB équivalente égale à moins 2,2J. Voilà. Donc vous voyez que l'avantage, une fois que vous avez bien compris comment on utilise les nombres complexes, c'est d'un point de vue calcul après, ça devient vraiment une algèbre élémentaire de nombres complexes. D'accord ? C'est des sommes, c'est des soustractions, c'est des multiplications, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et enfin, donc la dernière diapositive, la numéro 10. Donc là, c'est une application directe à partir de ce qu'on a vu déjà ou de ce que vous avez vu au premier semestre, c'est-à-dire les diviseurs de tension. Donc le diviseur de tension, vous pouvez le réutiliser tel que vous l'avez vu au premier semestre, autant qu'on l'a réutilisé aussi en début du semestre. Donc si par exemple vous avez trois impédances qui sont en série, Z1, Z2, Z3, alimentées par une tension d'un générateur, bon il n'est pas représenté ici mais on suppose qu'il est là, donc et qu'on cherche à déterminer la tension U3, donc ici tout est en amplitude efficace complexe hein, pour les tensions et les courants. Eh bien, donc, on va dire simplement que la tension U3, c'est évidemment Z3 fois I, mais en utilisant le diviseur de tension, eh bien, c'est la tension du générateur U bar que multiplie donc l'impédance associée à la tension U3, c'est-à-dire Z3 bar, divisé par la somme au dénominateur de toutes les impédances. Donc, ça, c'est vraiment... si vous remplacez ça par R1, R2, R3 et vous déterminez la tension au banc de R3, vous aurez exactement la même expression. D'accord ? Alors, donc, ça voudrait dire simplement, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que vous avez vu avec les résistances devient applicable. Simplement, il faut raisonner en termes d'impédance et non plus de résistance. Alors, donc, un exemple concret ici, supposons qu'on ait une bobine ZL et une résistance ZR alimentée par un générateur avec une tension efficace de 100 volts et un déphasage nul. Et donc, on vous demande de déterminer la tension aux bornes de la résistance R. Eh bien, donc, en utilisant le diviseur de tension, vous avez dans le deuxième encadré, Donc, plus à droite, c'est simplement la tension U, amplitude efficace complexe de mon générateur, que multiplie le rapport de R sur ZR plus ZL, c'est-à-dire R plus JL oméga. Donc, on remplace ici directement par les expressions. Alors, donc, ici, ce que l'on va tenter de faire, c'est d'écrire UR bar sous la forme A plus JB, c'est-à-dire sous la forme cartésienne, avec une partie réelle plus J fois une partie imaginaire. Alors, d'une manière générale, pour faire ça, ce qu'il faut faire, c'est il faut multiplier, lorsque vous avez une partie complexe au dénominateur, il faut multiplier par le complexe conjugué le numérateur et le dénominateur, de telle sorte à ce que le dénominateur devient un réel. Donc, c'est ce qui est fait ici. Donc, l'expression R plus JL oméga est multipliée par R moins JL oméga en haut et en bas. Et ensuite, on met tout ça ensemble. Alors, donc, à partir de cette expression-là, maintenant, je peux déterminer la valeur efficace. Donc, la valeur efficace de la tension en bande de la résistance, c'est le module de UR. Donc, le module d'un produit de nombres complexes, c'est le produit des modules. Donc, ça va être le module de U que multiplie le module de l'expression qui est ici entre parenthèses. Voilà, donc normalement, c'est sans difficulté que vous devez trouver ce résultat. Et donc, pour l'argument, donc c'est la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc, ici, comme la tension U bar n'a pas de déphasage, donc le seul déphasage qui va exister, c'est celui qui vient du numérateur, qui est donc écrit sous la forme de R carré moins JL oméga R. Donc, en prenant R carré moins JL oméga R, arc tangente de ça, c'est la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc, c'est moins L oméga R sur R carré, c'est-à-dire moins L oméga sur R. Voilà, et donc, si on vous donne des valeurs, cette fois-ci, numériques, pour la résistance et pour la valeur de L oméga, eh bien, vous pouvez déterminer le module de UR, c'est-à-dire la valeur efficace, donc c'est 60 volts, et déterminer l'arc tangente du rapport L oméga sur R, qui est ici de moins 59 degrés. Et donc, l'amplitude efficace complexe associée à votre tension au bord de la résistance R s'écrit en notation phaseur 60 volts en valeur efficace et moins 59 degrés en déphasage. Donc voilà un peu comment on va traiter les exercices en notation complexe alimentés donc par des générateurs de tension ou de courant de type alternatif. Donc pour la troisième partie, on verra l'association série et parallèle, cette fois-ci en mettant ensemble la résistance, la bobine et le condensateur. Voilà. Je vous remercie de votre attention.